Radio J, la chronique pour la paix. Uzi Meyerson, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour Lise, bonjour chers auditeurs.
Alors, aujourd'hui, nous avons un invité en studio qui est David Chemla. David Chemla, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le secrétaire général de J-Call Europe. Cette organisation rassemble les citoyens juifs et les amis d'Israël qui aspirent à une paix au Proche-Orient reposant sur un accord entre Israéliens et Palestiniens selon le principe « deux peuples, deux États ». Uzi, la parole est à vous.
Merci. Alors David Chemla, on vous a présenté, J-Call est européen. Est-ce que vous pouvez nous dire dans combien de pays vous êtes implanté
en Europe ? Nous sommes implantés physiquement en Suisse, en Italie, en Belgique, en France évidemment et en Espagne. Et puis nous avons des correspondants dans d'autres pays européens.
D'accord. Et vous existez depuis combien de temps ?
J-Call a été créé en 2010, donc ça fait 11 ans maintenant.
D'accord. Est-ce que c'est vrai que Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Daniel Cohen-Bendit, Elie Barnavi sont les parrains de votre organisation ?
Oui, ils font partie des signataires de l'appel que nous avions lancé à l'époque au Parlement européen à Bruxelles.
D'accord.
Que signifie exactement la lettre J en majuscule et call comme un appel en anglais ?
Parce que justement, comme vous le dites, c'était un appel qui a lancé notre mouvement, qui est un appel à la raison, appel pour trouver une solution au conflit du Proche-Orient. Et le J fait effectivement référence aux Juifs, parce que c'est un appel juif.
C'est Jewish en fait.
Jewish en anglais. C'est aussi un lien au mouvement américain et duquel nous sommes proches, G-Street, qui est un lobby juif pour la paix aux États-Unis.
D'accord.
Alors, passons aux choses sérieuses. David Chemla, il y a un nouveau gouvernement en Israël. Il est mené par Naftali Bennett et Yair Lapid. C'est un événement d'autant plus important que cet exécutif vient de prendre la place de Benjamin Netanyahou, qui a occupé le poste de Premier ministre pendant 15 ans, comme tout le monde le sait. Est-ce que pour J-Call, cette alternance politique ouvre de nouvelles perspectives pour les solutions que vous défendez et que je rappelle ? Reprise des négociations avec les Palestiniens, retrait de Cisjordanie, fin de l'extension des implantations juives, mise en place d'un État palestinien aux côtés d'Israël avec des garanties sécuritaires. Est-ce que la perspective est différente aujourd'hui ?
L'objectif reste le même, trouver une solution au conflit sur la base de deux États. Ce n'est pas nous qui définirons les frontières, ce n'est pas nous qui négocierons en Europe ces frontières. Ce sera, le jour venu, les autorités israéliennes et palestiniennes, évidemment. Maintenant, ce qui change fondamentalement, c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. J-Call, comme nous l'avons rappelé, a été créé en 2010. C'était la première année du premier gouvernement de Netanyahou quand il est revenu au pouvoir en 2009. Et nous avons existé constamment depuis 11 ans sous des directions de Netanyahou avec les choix politiques qui étaient les siens. Avec les blocages politiques, parce qu'il n'y a eu aucune négociation entamée avec les Palestiniens depuis la fin du gouvernement Olmert, on remonte à 2008. Donc vous voyez, ça remonte loin.
Oui, oui.
Donc,
solution Olmert.
Voilà. Donc pour l'instant, ce qui change, c'est un nouveau contexte. D'abord, en Israël même, j'en reviens, ce que j' ai pu constater, c'est qu'un sentiment d'apaisement général. Le pays vivait depuis deux ans des élections à répétition, quatre élections, des tensions, une guerre civile larvée physique parfois, en tout cas verbale, en tout cas entre les différents partis. C'était un climat de violence que l'on sentait dans les manifestations dont on a beaucoup parlé l'an dernier. Et là, vraiment, on a l'impression qu'il y a en place un gouvernement nouveau qui répond aux problèmes du pays, en tout cas qui aspire à y répondre. Les problèmes sont nombreux, et surtout les plans de la vie quotidienne, sécurité, transport, sanitaire, etc. Et il y a des ministres qui veulent prendre en charge ces questions-là. Et je crois que ça, c'est le premier sentiment que j'ai ressenti. C'est cela, une espèce d'apaisement. Enfin, on va s'occuper de nos problèmes. Deuxième point, évidemment, les questions internationales ne sont pas le sujet, je dirais, ce ne va pas être le sujet qui va être au menu, je dirais, du gouvernement dans les prochaines semaines. Il y a d'autres problèmes intérieurs plus importants. Mais ces questions-là, on y reviendra. Alors, évidemment, sur la question palestinienne, donc c'était ça votre question, il est certain qu'il n'y a pas de consensus entre la droite représentée par Bennett et son parti Yamina et le Meretz avec Nissan Horowitz qui
prône... Oui, c'est une coalition hétéroclite.
Alors, c'est certain que sur ces questions-là, il n'y aura pas de consensus. Par contre, il y aura peut-être un état d'esprit différent qui permettra peut-être de ramorcer des négociations, c'est ce que nous espérons, et on verra comment les choses évolueront.
D'accord. Alors, vous venez d'évoquer l'hétérogénéité idéologique du nouveau gouvernement. Effectivement, il y a Lieberman à côté d'Horowitz, c'est-à-dire un nationaliste à côté d'une personne très à gauche. Il y a Lapid qui est un laïc libéral à côté de Bennett qui est un national religieux, qui est le Premier ministre actuellement. Est-ce que la question palestinienne, tout ce dont vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que ça ne va pas conduire à l'immobilisme, c'est-à-dire l'impossibilité de prendre des décisions importantes par rapport à ce problème? Et est-ce que le problème ne risque pas de se représenter de la même manière qu'il s'est présenté, d'une manière violente et inattendue, comme lors de la dernière guerre de Gaza? Bon, quand on ne traîne pas les choses, elles pourrissent.
C'est certain que les problèmes qui ne sont pas réglés finissent par exploser. Alors, d'abord, Gaza, c'est autre chose. C'est la situation, d'abord, de la population israélienne qui est mitoyenne à Gaza, qui a subi et continue à subir des attaques, que ce soit les missiles, les ballons qui sont envoyés avec les ballons incendiaires, etc. Donc sur cet aspect-là, je crois que ce gouvernement, et surtout avec son ministre de la Défense qui est toujours le même, Benny Gantz, continuera à avoir une politique très très stricte pour défendre et réagir à la moindre provocation. Ça, c'est une chose par rapport au Hamas. Par rapport à l'autorité palestinienne, il y a un autre état d'esprit. On l'a vu avec l'histoire avortée des vaccins pour les Palestiniens. Vous savez, les Palestiniens avaient commandé des vaccins à Pfizer. Oui. Ils ne les avaient pas reçus. Ils devraient les recevoir en septembre. En Israël, il y a des vaccins qui devaient être périmés fin juillet. Sous Netanyahou, on avait prévu de non pas les donner, mais de leur vendre pour leur permettre de traiter leur population en attendant de recevoir les leurs. Et ça avait bloqué. Et le nouveau gouvernement a essayé de les transmettre. Finalement, comme il y avait une date de péremption, les Palestiniens ont refusé. On dit aussi, parce qu'ils n'étaient pas préparés sur le plan logistique, ils n'étaient pas capables de vacciner 1 million de personnes en quelques jours. C'est certain que ça poser des problèmes. Mais en tout cas, ça dénote bien un autre climat de relations entre l'autorité palestinienne et ce nouveau gouvernement. Pour l'instant, rien n'est enclenché. Mais bon, je pense que dans les semaines à venir, on verra comment les choses vont se mettre en place.
Alors, toujours sur le même sujet, il y a d'autres bonnes nouvelles, enfin, pour ceux qui sont à gauche. Il y a Joe Biden et les démocrates qui gouvernent les États-Unis. Est-ce que vous attendez des initiatives diplomatique de la part des Américains en ce qui concerne la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens? Ou est-ce qu'ils ne bougeront pas non plus eux aussi parce qu'ils ont d'autres sujets à traiter?
Bon, il est évident que pour les Américains, sous Biden, comme cela a été d'ailleurs sous les mandats précédents, le Proche-Orient n'est pas une priorité. Trump a proposé un plan qui s'est avéré complètement inadéquat et rejeté par les Palestiniens, complètement. Les accords, par contre, d'Abraham avec les États sunnites continueront à fonctionner. Ils vont même peut-être continuer à s'étendre à d'autres pays. Lapid était récemment aux Émirats. C'était la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères était en visite officielle dans les pays.
Ça s'est bien passé,
Golfe.
Je crois.
Ça s'est très bien passé. Bon, voilà. Donc, ça, sur ce plan-là, ça continuera. Par contre, avec les Palestiniens, Biden a laissé entendre qu'il ne prendrait pas d'initiative pour l'instant. Il va attendre le premier examen, je dirais, de ce nouveau gouvernement, qui est la vote du budget. Israël a vécu depuis 2 ans sans budget. Et il y a un budget qui ne peut pas vivre sans budget. C'était le budget de 2019 qui était reconduit d'année en année. Il faut un budget. Et un budget définit un peu une politique aussi d'un gouvernement. Donc la constitution de ce budget qui devrait être voté au Parlement entre le mois de septembre-octobre, après les fêtes de Tishri, sera déterminante. Et après, probablement que les États-Unis, s'ils veulent prendre l'initiative, pourraient la prendre. Maintenant, encore une fois, je ne pense pas que ce sera leur priorité. Mais je pense qu'ils, comme sous les gouvernements précédents d'ailleurs, ils font des pressions pour qu'il n'y ait pas de nouvelles implantations ou de nouvelles initiatives israéliennes sur le terrain qui puissent être un nouveau blocage éventuel avec les Palestiniens.
Alors je voudrais vous poser une question un petit peu différente. C'est le Premier ministre Bennett qui l'a mis un peu sur le, sur le plateau. Les relations avec une partie de la communauté juive américaine étaient pas très bonne entre Israël, le gouvernement, le rabbinat, tout ça. Et vous avez des contacts avec J-Street, qui, comme vous l'avez dit, une grande organisation libérale, propice aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des initiatives ou, comme vous dites, un état d'esprit différent pour essayer de reprendre la langue entre Israël, tout Israël et toutes les communautés juives aux États-Unis?
Oui, je crois que c'est ça un des enjeux de ce futur gouvernement. Le gouvernement précédent, effectivement, avait fait d'autres choix. Il s'était plus rapproché des chrétiens évangélistes qui soutenaient la politique de la droite israélienne. Et il s'était coupé avec une grande partie du judaïsme américain, réformé, ne reconnaissait pas les
libéraux.
Les libéraux comme mouvement, et vous savez tout le problème autour du mur, des lamentations, ils ne pouvaient pas aller prier.
Avec les femmes.
Et les femmes ne pouvaient pas prier, etc. Donc, toutes ces questions-là qui sont très sensibles aux États-Unis, je pense que ce nouveau gouvernement va s'y atteler. Et la nomination de Nachman Shai comme le nouveau ministre des Affaires de la diaspora est un signe important à cet égard. Et Nachman Shai connaît parfaitement le judaïsme américain. Il a enseigné pendant 2 ans aux États-Unis dans une université américaine. Et sa nomination est un signe important vis-à-vis du judaïsme américain.
Et en fait, je crois que Yair Lapid est très sensible aussi à cette problématique. Il en avait parlé dans des programmes précédents. C'était le fait justement de mettre en avant le judaïsme libéral et ma sortie.
Tout à fait. Ça fait montrer la diversité du judaïsme dans le monde et ne pas privilégier uniquement l'approche des orthodoxes. C'est un des points sur lesquels il y a un consensus dans ce gouvernement, dans tous les partis qui le constituent. Bon, le parti arabe, ce n'est pas son problème.
Non, pas vraiment.
Ce n'est pas son problème, le parti musulman. Par contre, les 7 autres partis, là-dessus, il y a un consensus total sur cette ouverture au judaïsme libéral.
D'accord. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais vous poser une question sur quelque chose que je pense qui est très, très important et auquel on n'a pas assez fait attention, en tout cas on a un peu tourné vite la page. Donc vous revenez d'Israël, là-bas vous avez eu pas mal de contacts, hein, voilà. Qu'est-ce que pensent les gens des violentes émeutes qu'il y a eu entre juifs et arabes israéliens? Ça a eu lieu dans plusieurs villes d'Israël, ça a atteint quand même des degrés assez importants dans la violence. Comment vos interlocuteurs israéliens juge ce qui s'est passé et quelles sont les retombées de tout ça aujourd'hui?
Bon, d'abord, je crois qu'il faut replacer cela dans son contexte. Hein. La violence dont vous parlez a surpris effectivement.
Personne ne s'y attendait. Quoi.
Mais d'un autre côté, elle est aussi le reflet de la violence qui existe dans le monde, la communauté arabe israélienne. Il y a encore eu cette semaine encore un meurtre de 3-4 personnes dans une famille, entre arabes eux-mêmes. Ce meurtre, je crois que ça ramène à une quarantaine depuis le début de l'année d'assassinats au sein de familles dans des villages ou dans des villes arabes. Il y a un armement qui circule, on le sait, et tous les maires et les responsables arabes en Israël ont demandé au gouvernement précédent, comme à celui-ci, de prendre ça en charge, de prendre les problèmes de la sécurité en charge. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, le parti musulman Ram est entré dans ce gouvernement. Il a des garanties par rapport à ces questions-là. Des garanties à la fois sur des problèmes budgétaires et aussi des problèmes sécuritaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la violence entre juifs et arabes, effectivement, il y a eu des faits marquants. Je pense que la police a fait son travail depuis pour essayer d'attraper les personnes qui étaient impliquées dans ces violences. Et puis ça semble être retombé. Il y a plutôt une coopération, un esprit de coopération qui se rétablit. On ne veut pas casser cette communauté de vie ensemble. Au contraire, je crois qu'il y a une attente du côté des Arabes. Et ça se reflète par la participation pour la première fois d'un parti arabe au gouvernement, de vouloir participer à la direction du pays, de prendre en charge leurs problèmes. Et je crois que ça, c'est une évolution très importante pour les années à venir.
Eh bien, ce très sera bien. Le mot de la fin.
Absolument.
Paul Uzi Meyerson, David Shemla, merci beaucoup d'avoir été avec nous matin. Et Paul, on se retrouve
en septembre pour Chronique pour la paix. On continue.
Alors, bon été à tous. Au revoir, merci.
Au revoir, Lise.